Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.
Il est 18h01 et quelques secondes, nous sommes déjà le lundi 26 avril. Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
À la relève ce soir, on va parler de livreurs, on va parler de vélos, de chaînes d'information et de livreurs, pour le meilleur et pour le pire surtout. Si j'étais à vélo, on dirait que ma chaîne a sauté ou j'ai déraillé. Bonsoir Benoît Marquisio, merci d'être avec nous au téléphone.
Bonsoir, merci à vous.
Vous êtes l'auteur d'un premier roman, Tous complices, paru il y a quelques semaines, voire même quelques mois maintenant, puisqu'il est paru au mois de février aux éditions des Arènes dans la collection Equinox. On peut dire que c'est une collection de romans noirs. Et est-ce que vous pensez avoir écrit un roman noir ?
Alors oui, déjà c'est une collection de romans noirs.
Dirigé par Aurélien Masson, quand même, on va le dire au passage.
Ouais, exactement. C'est le grand chef de cette collection. Ouais, ouais j'estime avoir écrit un roman noir, en tout cas je l'espère.
Il n'y a pas de mort pourtant.
Pardon ?
Il n'y a pas de mort dans votre roman. Pardon, je vous ai coupé la parole.
Ouais, mais c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que la vision d'Aurélien, justement, c'est de sortir aussi le roman noir du polar et de parfois aller explorer des zones un peu plus dramatiques, sans cadavres. Sans enquête policière, mais de jeter un œil un peu frais sur notre société, que ce soit l'économie, le social. Il y a d'autres romans dans la collection qui font ce travail. Je pense notamment au boulot de Dominique Manotti dans Raquette. Je pense qu'on peut dire que j'ai écrit un roman noir, en effet.
Il y a aussi la tension du roman noir qu'on trouve dans votre livre. Vous avez dû travailler, j'imagine, la tension narrative. On est très, c'est très haletant, on tourne les pages, on veut savoir ce qui va se passer. C'est un travail particulier ?
C'était l'objectif dès le début, effectivement. Enfin, moi, ce que j'apprécie dans le roman noir et dans le thriller en général, c'est l'efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui était important à la fois pour moi et pour Aurélien. C'était de garder un style vif qui colle aussi au sujet du roman, puisque l'objectif était effectivement que le livre se lise vite. Comme les livreurs sont obligés d'aller vite.
Oui, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais donc c'est un roman qui parle notamment des livreurs à vélo. Alors comment vous avez eu l'idée d'en faire un univers romanesque ?
On discutait d'un tout autre projet avec Aurélien, l'éditeur, et un jour il me dit, mais quel serait un prochain projet que tu aurais envie de faire ? On était sur complètement autre chose. Et je lui parle de ce qui m'était arrivé, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille de cette conversation. Et en fait, je suis moi-même cycliste dans Paris. Et je me suis rappelé de m'être arrêté à un feu rouge et de voir tous les sacs carrés des livreurs devant moi. Il y en avait un de Deliveroo, Uber Eats, Frishti, Take It Easy à l'époque encore. Et ça m'a un peu frappé. Je me suis dit, ces jeunes mecs sont apparus dans le paysage urbain sans qu'on s'en rende compte. Et pour la première fois, j'avais face à moi leur existence concrète. Et je me suis posé un peu la question de comment ils bossaient, comment ils vivaient. Et il y a eu un autre mouvement, c'était une question qui m'intéressait, c'était qu'on était tous enclins à vouloir protéger notre vie privée. On était tous indignés quand il y avait des leaks Sony ou que nos mots de passe circulaient sur Internet. Mais en revanche, on était tout à fait OK pour filer nos adresses et nos régimes alimentaires, parfois dévoiler le nombre de personnes qui occupent notre foyer selon ce qu'on commandait, à des applications pour justement avoir accès à un confort et à un service de livraison de repas. Mmh. Et en fait, ces deux idées mises bout à bout, j'ai dit à Aurélien, je trouve ça rigolo d'écrire un thriller dans ce milieu-là. L'idée lui a plu et j'ai commencé mes recherches comme ça.
Vous avez fait une enquête parce qu'à la fin, vous remerciez plusieurs livreurs qui vous ont initié à ce milieu. Je ne sais pas si on peut dire initié à ce milieu. En tout cas, vous avez découvert ce milieu par... Vous avez donc fait une enquête, c'était une question en fait.
Ouais, j'ai fait une enquête. Alors le mot est fort, mais en tout cas, voilà, je me suis rendu à des manifestations à l'été 2019, qui correspond à l'été où Deliveroo a changé sa tarification. Et ça a provoqué un certain nombre de mouvements un peu partout en France, mais il y en avait à Paris. Alors c'était au creux de l'été, donc je suis allé à leur rencontre et de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer des livreurs à Paris, mais aussi en province, notamment Bordeaux et Rouen. Et des syndicalistes, des gens qui montent des coopératives pour essayer de lutter justement contre l'ubérisation, et ils m'ont ouvert un monde dont je me doutais que c'était pas rose, mais là pour le coup c'était vraiment noir. Et en fait, ça a étayé ma réflexion et ça m'a permis d'effectivement d'insérer quelques éléments dans l'intrigue pour rendre le roman le plus réaliste possible, même si, comme vous le disiez au début, il y avait une envie de faire un page-turner.
Ce que révèle votre roman aussi, c'est que cet univers-là, en fait, est très, très hiérarchisé. On ne voit que des livreurs à vélo, mais en fait, ils n'ont pas tous finalement le même statut. Puis même en cours de route, on découvre qu'il y a ceux qui n'ont plus que la force de leurs jambes, mais ceux qui ont des deux roues motorisées.
Oui, exactement. En fait, ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui parce que ce matin, il y a eu une enquête hyper intéressante sur France Info par un journaliste qui s'appelle Robin Prudent et qui, en fait, explique ce que j'explique aussi dans le livre, c'est comment, en fait, cette nouvelle tarification a poussé les livreurs à passer au scooter. Parce que au début, quand les applications sont arrivées dans le paysage urbain, lorsqu'on habitait, par exemple, dans le 18e arrondissement de Paris, c'était quasiment impossible de se faire livrer dans les repas d'un restaurant qui était localisé dans le 92 ou dans le 15e arrondissement. Et en fait, le jour où ces frontières sont tombées, les applications ont indirectement poussé les livreurs à s'équiper en engins motorisés pour aller plus loin et pour aller plus vite et pour choper les meilleures courses, parce que plus on livre loin du point d'ancrage du restaurant, mieux on est payé. Donc en fait, ce mouvement a été un peu insidieux et pas du tout provoqué par les plateformes, mais en fait, le simple changement de tarification et la possibilité de faire des courses plus longues a poussé les livreurs à s'équiper en deux roues motorisées. Et donc, en fait, un scooteriste, comme on les appelle, est plus efficace qu'un cycliste, puisque lui peut aller d'un bout à l'autre de Paris sans effort, tandis que le cycliste sera forcément plus lent, se mettra forcément plus en danger et arrivera avec un petit peu plus de retard, quoi.
C'est vrai que là, je suis un peu sur le cadre du roman, pas vraiment dans le roman, on n'y est pas encore rentré. On va peut-être y rentrer par les personnages. C'est peut-être par les personnages vous-même que vous avez réussi à fictionner à partir de la matière que vous avez. Donc on peut citer quelques personnages. Il y a Léna, la prof d'histoire revenue de tout, qui est devenue SDF. Il y a Yas, qui est journaliste. Encore Igor, l'avocat. Et puis il y a aussi Abel, le livreur de repas à domicile, qui a un compte tout à fait officiel. C'est un peu le dindon de la farce, Abel.
En quelque sorte, puisqu'il y croit, lui, il pense que ce monde-là, celui de ce qu'on appelle la gig economy, il est fait pour lui parce qu'il a besoin de revenus complémentaires pour soutenir sa mère, qui est mère célibataire, et apporter un peu et faire sa part dans le foyer. Et donc, il se dit que c'est plutôt un job facile, entre guillemets, quoi. Il suffit de pédaler 3-4 heures le midi, 3-4 heures le soir pour amener un complément de revenus. Mais en fait, ce qu'il va découvrir, c'est que la réalité n'est pas si simple et que justement, par des mécanismes pervers, le logiciel pour lequel il bosse va en fait briser peu à peu ses illusions. Alors à travers ces changements de tarification, comme je décrivais tout à l'heure, mais aussi des challenges qui lui sont lancés et qu'il a du mal à relever pour gagner quelques euros de plus, puisque c'est ça en fait dont on parle dans ces milieux-là, c'est vraiment gagner quelques euros de plus, quoi, grappiller quelques euros de plus.
Il y a quelque chose que vous réussissez très bien dans votre livre, c'est que visiblement ils reçoivent en permanence des alertes avec trois notes. Évidemment, quand on lit, on n'entend pas les alertes, mais à force de lire les trois notes, on a l'impression de les entendre. Je ne sais pas comment vous avez travaillé ça, peut-être le côté répétitif qui fait qu'au bout d'un moment, on a l'impression de les entendre. Vous avez voulu rendre ça, ce côté, ce que vous disiez tout à l'heure, ce côté très, très tendu finalement de ce travail.
Oui, très tendu et puis très, très physique. Enfin, très dans un monde un peu numérique, moi je trouvais ça intéressant de travailler un petit peu des sentiments analogiques, des notions d'impact, de son. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à imaginer cette application, je me suis dit il faut qu'on la sente et il faut que Abel la sente de manière physique. Donc ces trois notes assez stridentes et le phénomène de répétition, ça montre qu'elles sont de plus en plus présentes dans sa vie jusqu'à l'empêcher de réfléchir, l'empêcher de penser et aussi provoquer peu à peu sa prise de conscience.
Est-ce que vous avez le problème de certains romanciers? Alors, il y en a certains qui disent qu'ils sont obligés de gonfler les histoires pour arriver à avoir une matière romanesque. Est-ce que vous avez été obligé, au contraire, d'atténuer pour pas que l'on se dise « là, c'est too much » ?
Le sujet en lui-même était très riche et c'est pour ça qu'il plantait un thriller. C'était assez riche puisqu'il y a des notions inhérentes aux gens, hein, dont on parlait tout à l'heure, la vitesse, la tension, des questions même parfois de vie ou de mort, hein, parce que quand on prend des risques à livrer en vélo dans Paris, eh ben, malheureusement, il y a des faits divers qui rappellent qu'il y a des livreurs qui sont renversés.
Oui, on découvre dans votre livre qu'ils se sont même attaqués par des gens qui veulent la bouffe.
Oui, exactement. Ça, c'est des choses que vous pouvez, vous rendre compte en lisant. Enfin, moi, comme je me suis vraiment intéressé à ce milieu-là, j'ai l'impression d'être tous les jours abreuvé de news quant à des livreurs qui se font agresser pour se faire soit voler leur bouffe, soit parce que faire voler leur vélo, etc., etc. Donc en fait, il y avait une matière qui existait et c'était une question qu'on s'est posée avec l'éditeur, parce qu'au début, le livre devait se passer dans un futur proche. Et lui, il m'a dit, mais en fait, d'après ce que tu me décris, c'est déjà suffisamment la misère aujourd'hui pour pas avoir besoin de pousser les curseurs. Mais en même temps, je me suis aussi gardé des marges de manœuvre côté fiction pour créer une application qui n'existe pas, une chaîne de télé qui n'existe pas, des personnages qui sont complètement issus de l'imagination, comme Léna parlait tout à l'heure.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors, justement, puisque vous en parlez, Abel, on imagine que vous avez pu le croiser, Yas ou Igor aussi, mais Léna, vous l'avez complètement inventé ou c'est une biographie qui existe? Cette ancienne prof devenue SDF qui crée une sorte de phalanstère de cyclistes indépendants?
Non, ça c'est vraiment sorti de mon imagination, si j'ose dire. Et c'est un personnage que j'ai créé toute pièce parce que bah, pour les besoins du récit, et j'avais besoin d'un personnage qui... Enfin, je voulais créer ce lieu un petit peu alternatif où les livreurs pouvaient sortir des contraintes et des règles et des pressions subies par l'appli ou les flics ou autres, se retrouver un petit peu pour souffler, parce que je pensais que ce serait nécessaire aussi dans le roman. Et ensuite, quand vient cette idée de créer des faux comptes pour les aider à faire un petit peu plus que survivre, je me suis dit que le meilleur personnage pour incarner ça serait justement... une ancienne prof qui tient tellement à se rendre utile qu'elle s'en est rendue malade une première fois et qui, à nouveau, se retrouve dans un dilemme qui fait est-ce qu'elle elle bascule complètement dans l'illégalité pour aider ses nouveaux élèves, puisqu'elle était ancienne prof et maintenant elle est à la rue, ou alors est-ce qu'elle saura trouver le compromis suffisant pour ne pas non plus basculer dans quelque chose de trop radical, mais malheureusement, ça ne va pas se passer exactement comme elle l'imaginait.
Alors, votre roman s'appelle « Tous complices ». On comprend bien en le lisant que les complices, c'est peut-être les consommateurs, les chaînes d'infos, les avocats qui prétendent même aider ces gens-là. Moi, je me suis demandé qui était le vrai méchant de votre livre et si finalement, ce n'était pas l'algorithme. Parce que finalement, on voit ces livreurs à vélo qui essaient de le déjouer, qui essaient de comprendre comment il marche et de trouver des solutions pour le contourner. Et à chaque fois, il est plus fort qu'eux.
Complètement. Enfin, le vrai antagoniste, c'est celui qu'on ne voit pas, mais qui est partout. Et c'était vraiment un des objectifs de faire de cette appli le grand méchant. Et après, bon, je ne peux pas dévoiler la fin, mais en fait, celui qui a toujours un coup d'avance. Enfin, celle, en l'occurrence. Et après, sur l'expression « tous complices », moi, c'est un mot qui... Le mot complice, moi, il m'intéressait beaucoup parce que c'est un mot qui revient beaucoup dans le débat public. Et on est toujours complice de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vraiment le mot qui sert à accuser son opposant pour clore tout débat. La gauche est complice des islamistes, la droite est complice des fascistes. Et en fait, ça tue le débat. Et j'aimais bien l'idée que ce mot soit utilisé dans le livre et jusqu'au titre pour justement montrer que... En fait, on n'arrive plus à s'entendre et que même si on a des causes communes, c'est difficile de trouver un terrain d'entente et qu'on a toujours mieux fait et plus vite fait de rejeter la faute sur l'autre alors qu'il y a des choses à imaginer plus constructives pour combattre un ennemi tentaculaire, quoi.
Mais là, justement, ce qu'on voit, et je me suis demandé, parce que dans votre livre, on voit bien que les précaires, ce n'est pas que les cyclistes, il y a la jeune journaliste, il y a aussi l'avocat. Donc, on pourrait dire que vous avez écrit le roman de la génération précaire face aux boomers, d'une certaine façon. Mais on a quand même l'impression que le comble du malheur, c'est d'obéir un algorithme avec lequel on ne peut pas négocier. L'avocat ou encore la jeune pigiste, elles peuvent négocier, espérer quelque chose.
Ouais, c'est vrai, mais c'est difficile. Enfin, quand on voit dans le cadre du personnage de la pigiste qui s'appelle Yas, En fait, on la remet toujours à une strate supérieure. Quand c'est pas son boss qui prend des décisions, c'est les actionnaires. Donc là aussi, on la renvoie à une masse floue. Pareil, l'avocat, lui, il cherche à faire le buzz, mais le buzz, c'est pareil, c'est quelque chose de liquide, de qui n'est pas maîtrisable et qui décide presque de lui-même. C'est un peu comme un blob, quoi. Et moi, j'aimais bien cette idée qu'en fait, on renvoie un certain nombre de personnes, même dans la vraie vie, à des notions hyper abstraites pour justement justifier les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, quoi.
Dans votre premier ouvrage qui s'appelait Génération Propaganda, vous intéressiez à cette société de production, pardon, j'arrive jamais à dire ce nom, Génération Propaganda, pourtant c'est simple, hein, qui a été créée aux États-Unis, qui a inventé le langage visuel pop des années 80-90. Ce roman-là, ça s'intéresse à un modèle économique qui est apparu aux États-Unis et qui vient de chez nous. C'était après le rêve américain, vous aviez envie de nous montrer le cauchemar américain ?
Peut-être, j'ai pas fait le rapprochement, mais pourquoi pas, ouais.
En tout cas, est-ce que pour vous, c'est un cauchemar américain, ces sociétés de livraison ?
Américain, je sais pas, je pense que c'est...
En tout cas, un cauchemar capitaliste contemporain, peut-être ?
Ouais, c'est un cauchemar contemporain, ça c'est sûr. En tout cas, ça a les atours et le goût du cauchemar, ouais. Ça c'est sûr.
Vous allez continuer à écrire des polars ?
Le prochain aura des aspects noirs, mais ça passera dans une autre période, donc ce sera plutôt un hybride roman noir aventure.
Ok, merci beaucoup Benoît Marchisio d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci beaucoup, c'était La Relève, c'était proposé, préparé et présenté par Christophe. À la réalisation, il y avait Colin. Oui, le même Colin qui présente la matinale de Radio Campus à 19h. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.